Alors, une catéchiste aux offrandes de première communion pose cette question. Où reçoit-on Jésus quand nous communions? C'est une bonne question. On se la pose tous, hein, c'est ça. Hein. Voilà la réponse des enfants. Il y en a un qui répond « Dans mon cœur qui grossit d'amour ». C'est pas mal, pas mal, on valide. Et puis il y en a un autre qui répond « Dans mon squelette ». Dans mon squelette. Bah, ça nous apporte une structure, l'Eucharistie. Hein. C'est quand même la structure même de notre vie chrétienne. On voit que Dieu s'est révélé à travers de multiples signes, de multiples symboles, de multiples manifestations. Il s'est révélé à Moïse, par exemple, dans le buisson, un buisson ardent. Il s'est révélé dans l'orage, dans la tempête. Il s'est révélé même à Élie, dans la brise légère. Il s'est révélé à travers la manne. Et à travers tous ces signes, tous ces symboles, Jésus en a retenu un. Le pain, la manne. Dieu, quand il se révèle, il veut se faire intérieur à nous. Quel autre élément mieux que la nourriture pour se faire intérieur à nous? Dieu, quand il se révèle, Dieu se fait nourriture. Ce qui pose tout de suite pour nous cette question de la faim, de la soif que nous avons de Dieu. Quelqu'un qui ne mange pas meurt. C'est vital. Et donc, quelque part, on pourrait dire, mais quelqu'un qui ne reçoit pas sa vie de Dieu, ben, en fait, quelque part est déjà mort. Hein, c'est ce qu'on entend dans la première lecture. Hein. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, c'est la question de la faim de Dieu. Jeudi saint dernier, c'était moi qui célébrais ici, peut-être certains s'en souviennent, au moment de la consécration, sonne un portable. Et j'avais prévu de chanter les paroles de la consécration. Très compliqué quand il y a une sonnerie de portable, voilà, ça met des mauvaises notes dans la tête. Voilà, bon, après la messe se poursuit, les grâces étaient là, tout va bien. Mais le soir même, je reçois un assez long mail avec de plates excuses et une petite explication. En fait, ce n'était pas une sonnerie de portable, mais une alarme précise chaque jour. Une alarme pour une paroissienne qui prenait un médicament pour son cœur. Coïncidence symbolique assez énorme. À ce moment-là, on disait, voilà, c'est un peu pénible, mais en fait, moi je vous le livre ici aujourd'hui pour en récupérer aussi les fruits, ça a été un grand fruit pour elle. Vous voyez, médicament pour son cœur, ben, quel est le meilleur médicament pour le cœur, quelque part, hein, pour notre vie spirituelle, que cette Eucharistie qui vient nourrir notre vie. Vous voyez que parmi tous les sacrements, l'Eucharistie, c'est le sommet. Le baptême va nous faire entrer dans la famille chrétienne. Donc le baptême, c'est la porte d'entrée, c'est très bien. Mais ce n'est pas la plénitude de la vie chrétienne. La plénitude de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, comme le dit le Concile Vatican II, hein, source et sommet de la vie chrétienne. Source et sommet. Ça veut dire que je n'entre pas simplement dans la famille des chrétiens, mais je vis de la famille, de la grâce de la famille. Vous imaginez une famille où en fait tout le monde mange à une heure différente. Chacun est dans son coin. Il n'y a aucune communion. Ce n'est pas une famille. Il faut entrer dans la famille, mais aussi vivre de la communion familiale. C'est ce qu'on entend dans la deuxième lecture. Nous sommes un seul corps, car nous avons part tous ensemble à un seul et même pain. C'est pour ça qu'on communie tous à la même table de communion, pour signifier que quand je communie pas simplement pour moi, mais je communie aussi pour les autres, pour que Jésus construise son corps qui est l'Église. Donc on est dans cette question de la nourriture, cette question de la faim. On entend dans la première lecture, hein, « Il t'a fait sentir la pauvreté, il t'a fait sentir la faim hein, » à travers cette histoire de la manne. Il y a un jeune qui disait, hein, qui témoignait que pendant le carême, il se privait de goûter. Ça arrive, on se prive de goûter. Bon. Il allait à la messe le soir et en fait, il avait vraiment faim. Et il dit « Je transformais cette faim un peu physiologique, biologique, bon, je ne sais pas quoi, mais en faim de Dieu, en faim spirituelle. Je transforme cette faim. » Et c'est tout le sens du jeûne eucharistique. Ce qui nous est demandé, ce qui vous est demandé à vous, c'est d'avoir au moins une heure de jeûne avant la communion. Ce qui est demandé au prêtre, c'est une heure avant le début de la messe. Donc moi, je jeûne un peu plus que vous, voilà. Mais c'est vraiment ce sens-là qui est demandé. Hein. La pratique du jeûne eucharistique, c'est d'avoir une certaine faim de Dieu, de la transformer en faim spirituelle. Quand vous venez à la messe, posez-vous cette question, est-ce que j'ai faim de Dieu ? Quelle faim de Dieu est-ce que j'ai quand j'arrive à la messe ? Si Dieu se fait nourriture, c'est qu'il y a une faim. Et vous allez me rétorquer, mais en fait, à la messe, on a toujours la même nourriture. C'est toujours à peu près la même chose. Vous voyez, cette nourriture, bon, c'est toujours la même. La messe est assez répétitive. Quelque part, on s'ennuie. Alors, Vatican II a réfléchi et a dit on va parler beaucoup de la participation active des fidèles, dans le sens où on doit s'offrir avec le Christ. C'est ça le vrai sens. Alors, on a diversifié les lectures. Il y a eu un renouveau des chants, etc. Très bien. Certains vont se concentrer sur la seule véritable partie qui va changer de dimanche en dimanche et même d'année en année, c'est-à-dire l'homélie. Mais on réduit la messe à un niveau purement intellectuel. Bon, c'est pas vraiment ça. En fait, on rejoint une des questions, hein, une des questions clés qui est abordée dans la première lecture. Hein, quand Moïse parle de la manne au peuple, il va dire « cette nourriture inconnue de tes pères ». Donc quelque part, il y a une nouveauté à vivre, il y a une nouveauté à accueillir. Chaque dimanche, à chaque messe, il y a une nouveauté. Il y a un commentaire juif sur la manne qui va partir du péché originel. Vous savez, après le péché originel, il y a Dieu qui va condamner le serpent à manger la poussière. Pas très agréable. Et en fait, ce qu'on remarque, et ce que disent les commentateurs juifs, ils vont dire, mais en fait, le serpent, lui, pas du tout. Hein. Le serpent, il mange de tout. Hein. Il mange n'importe quoi. Le petit prince lui-même lui fait manger un éléphant. Bon, ça, c'est pas dans le commentaire juif. Hein. C'est moi qui le rajoute. Okay, vous suivez toujours. Mais la manne, c'est tout l'inverse du serpent. Si le serpent a une nourriture très variée, moi, je sais pas, quand j'étais enfant, j'espérais que ma maman, elle ne fasse pas toujours le même plat. Ce qui m'attirait à la table, c'était qu'il y avait une nourriture qui était variée. Quand il y a un banquet, on aime bien goûter un petit peu de tout, qu'il y a une nourriture qui est variée. C'est la grâce du serpent, très bien. Avec la manne, c'est tout l'inverse. La manne, c'est la même chose chaque jour. Mais alors avec un goût à chaque fois différent. Il y a un verset, je pense, qu'on ne lit jamais dans la liturgie, que je vous lis ici, c'est dans le livre de la Sagesse. « Tu donnais à ton peuple une nourriture d'ange. Tu envoyais du ciel un pain tout préparé, obtenu sans effort, un pain aux multiples saveurs qui comblait tous les goûts. Un pain aux multiples saveurs qui comblait tous les goûts. » L'hostie a toujours le même goût. Les enfants de première communion disent que c'est un goût de carton. Je n'ai pas trop l'habitude de manger du carton, donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop faire la différence. L'idée, ce n'est pas le goût de l'hostie. L'idée, c'est le goût de vie qu'il y a derrière l'Eucharistie. De quoi ai-je faim ? De quel goût de vie est-ce que j'ai faim quand je viens à la messe ? C'est ça la question qu'on doit se poser au début de chaque messe. Quel goût de vie j'ai envie de goûter aujourd'hui ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? De quoi est-ce que j'ai faim de Dieu et que Dieu va m'apporter à travers la grâce de l'Eucharistie ? C'est ça la grande question. C'est ça le grand goût que nous devons goûter dimanche après dimanche. Et voyez, ce goût de la vie, c'est exactement ce dont parle Jésus dans l'Évangile. « Moi, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Moi, je vis vers le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. » Donc, c'est vraiment ce goût de la vie. Quand nous communions, nous nourrissons ce goût de la vie éternelle qui, pour nous, a déjà commencé. Une maman posait cette question à sa petite fille de 7 ans. « As-tu pensé à offrir ton cœur et ta journée à Jésus ?» Et la petite fille de répondre « Bien sûr, maman, j'y pense toujours. Sans ça, à quoi ça sert ?» Eh bien, offrons notre vie à travers cette Eucharistie pour obtenir le goût de la vie éternelle dans l'Eucharistie.